Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous continuons cette découverte, cet approfondissement de ce grand document qu'est le catéchisme de l'Église catholique. Et nous en sommes au numéro 838 qui porte comme titre en 836 « Qui appartient à l'Église catholique ?». Et le numéro 838 aborde le sujet de ceux qui, je lis, « avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétiens, sans professer pourtant intégralement la foi ou sans garder l'unité de communion avec le successeur de Pierre, l'Église s'est unie pour de multiples raisons ». Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se sait unie à ces chrétiens qui ne portent pas tout à fait la même foi que nous? Est-ce que c'est un enjeu de que l'Église se sache unie à ces gens-là?
Oui, l'enjeu, c'est de regarder ce qui est positif en premier, avant de regarder ce qui nous divise, ce qui nous sépare. Et c'est une révolution, je dirais, de perspective, car il était convenu, avant le Concile Vatican II, de commencer toujours par regarder les différences. Et d'ailleurs, c'est resté très commun quand on rencontre des gens à droite ou à gauche, en voyage par exemple, on vous posera la question, mais finalement, qu'est-ce qui vous distingue des orthodoxes par exemple? Et on est obligé de commencer par dire ce qui nous désunit, ce qui nous sépare, plutôt que ce qui nous unit. C'est vrai qu'il ne faut pas, sous prétexte de regarder ce qui nous unit, d'évaluer la vérité de ce qui nous sépare. Et ça, c'est un grand danger de l'œcuménisme mou, je dirais, qui, malheureusement, va vers le relativisme. Tout se vaut, mais ce n'est pas du tout la position de l'Église. Elle dit « commençons par regarder ce qui nous unit pour ensuite examiner mieux ce qui nous sépare ». Et dans cette analyse, cela permet de remarquer que ce qui nous unit est toujours plus grand que ce qui nous sépare. La preuve, le baptême, nous obéissons tous à l'ordre de Jésus qui est dit par rapport aux nations, à ses apôtres, qui leur a dit le dernier jour où il les a quittés, le jour de l'ascension, « Baptisez-les, toutes ces nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. » Et donc il y a déjà un trésor énorme, parce que nos frères orthodoxes, nos frères protestants, eh bien, essaient de mettre en pratique cette vérité du baptême et cette vérité de transmettre tout ce que Jésus a prescrit, notamment à travers les évangiles. Donc on peut dire que en regardant ce qui nous unit, nous gagnons beaucoup. Alors, il ne faut pas relativiser, comme je viens de le dire, ce qui nous divise. Par exemple, nous considérons que la parole de Matthieu 16:16-16:18 est très importante, en particulier quand Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Qui n'est pas avec Pierre ne veut pas être entièrement avec l'Église. Et donc, le successeur de Pierre. Et pour nous, c'est capital. Donc, il y a à regarder pour les églises orthodoxes, eh bien, cette grande différence qui fait que nous faisons vraiment unité avec le Saint-Père, alors que les orthodoxes reconnaissent vaguement une primauté d'honneur quand ils ne considèrent pas le pape comme hérétique. Car malheureusement, après les divisions qui ont lieu à partir du environ 11e siècle, on a eu tendance chez les orthodoxes à considérer que le pape était hérétique et donc on n'avait même plus à avoir de relation avec eux. C'est récent, depuis le patriarche Athénagoras, patriarche de Constantinople, que je dirais il y a eu un effort d'amour. Ils ont signé avec Paul VI le fameux Thomas Agapis, c'est-à-dire le tome, le livre de l'amour. Et ils ont essayé d'abord de se parler, ce qui est extraordinaire. Et puis, il y a eu la mise en place de relations œcuméniques avec la constitution de groupes de théologiens qui ont pu se rencontrer régulièrement pour examiner justement ce qui nous sépare. Et cela permet de faire des avancées considérables. Nous avons, avec les vieilles églises dites orthodoxes, d'après le vocabulaire, je prends le vocabulaire commun journalistique, mais le mot n'est pas tout à fait bienvenu, les églises, je dirais, pré-éphésiennes ou pré-calcédoniennes, c'est-à-dire avant le concile d'Éphèse en 431, qui se sont séparées, ou avant le concile de Chalcédoine en 451, qui se sont séparées. Donc il y a tout déjà
qui un se grand sont, nombre... Qui se sont séparés de l'église de Rome ?
Qui se sont séparés, oui, de l'église unie de l'époque, qui étaient les Chalcédoniens ou les Éphésiens, ah oui, ceux qui suivaient ces conciles. Et la séparation avec les orthodoxes grecs et russes est beaucoup plus tardive, puisqu'elle date du XIe siècle, alors que là, ce sont des, je dirais, des séparations antiques, puisque 431, c'est quand même très ancien. Et vous avez donc les groupes dits nestoriens, hein, dans l'appellation ancienne, maintenant que l'on appelle l'église assyrienne, ou l'église nestorienne de Malabar, qui forment des entités qui ne sont pas unis avec le reste de l'Église universelle, ni avec les orthodoxes grecs et russes, ni avec nous, les catholiques. Et donc, ces églises, nous sommes arrivés à avoir de très bonnes relations avec eux, à tel point que, avec certaines d'entre elles, on est arrivé à permettre la communion eucharistique. Donc, c'est quand même un grand succès. Mardinka IV, qui a rencontré plusieurs de nos papes, eh bien, ont signé avec leurs successeurs des accords christologiques. Pas de la même manière, les églises dites autrefois monophysites, c'est-à-dire qui ne reconnaissaient qu'une nature dans le Christ, qui sont donc pré-calcédoniens, vous avez quand même un certain nombre d'églises, les coptes d'Alexandrie avec les Éthiopiens, plus au sud, les Syriens orthodoxes d'Antioche avec leurs cousins Malabar ou Syro-Malabar en Inde, et puis vous avez les Arméniens avec quatre catholicosa, c'est-à-dire quatre patriarcats, celui de Ekmazin en Arménie actuelle, celui de Cilicie à côté de, au Liban, à côté d'Antélias, les Arméniens de Constantinople, les Arméniens de Jérusalem, il y a quatre patriarches en quelque sorte arméniens. Et ces trois familles forment donc des entités avec lesquelles nous avons de très bonnes relations. Si nous ne faisons pas de bêtises, parce que malheureusement, ça peut arriver hein, que des membres de la curie, mal informés de ces relations œcuméniques, propulsent des documents et bloquent les relations œcuméniques pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans à cause de documents qui n'ont pas assez circulé dans les différents dicastères. C'est ce qui est arrivé malheureusement récemment. Les coptes ont coupé les liens, fides supplica, et ils ont dit mais on ne peut pas recevoir ça, c'est pas évangélique, et donc tout chaud sur la touche.
Ah oui. Et, voilà. Et ces églises reconnaissent une certaine autorité du pape alors?
Alors oui, à cause de ces relations œcuméniques, il y a quand même... mais je dirais, c'est à part égale, c'est-à-dire c'est pas hiérarchique.
D'accord, oui.
C'est-à-dire un chef d'église rencontre un autre chef d'église et tente de trouver un modus vivendi possible. Par exemple, Tawadros II des Coptes a renoncé à faire rebaptiser les catholiques qui se mariaient avec des Coptes en Alexandrie, alors que son prédécesseur, Chénouda III, obligeait ces mêmes catholiques à faire un renoncement à leur catholicisme et à devenir copte pour permettre le mariage. Donc il les obligeait à être rebaptisés. Donc c'était extrêmement grave.
Oui, oui. Est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire de l'Église, d'églises orthodoxes qui sont revenues sous l'autorité du pape catholique ?
Oui, d'ailleurs nous sommes les seuls à avoir eu ce phénomène par des très très grands groupes d'églises. Les premiers, ce sont justement les Chaldéens, avec cette église assyrienne qui actuellement est partagée entre l'Irak et l'Iran, et qui sont revenus très massivement au XVIe siècle formant la communauté orientale catholique, l'une des plus nombreuses, avec les Maronites et les Ukrainiens, qui sont deux églises orientales catholiques, car ces groupes d'églises qui sont revenus ont reçu le privilège que Rome leur a accordé, parfois au cours du temps, parce qu'on avait un peu tendance à trop unifier, à trop, à vouloir intégrer en rendant les gens trop similaires à soi-même et donc en modifiant leur liturgie pour qu'elle soit plus semblable à notre liturgie latine. Et ça, progressivement, on s'est rendu compte que c'était une très grosse erreur qui fallait permettre à des membres de ces églises séparées de revenir dans l'église catholique en gardant leur rite, mais en devenant, parfaitement catholique, en reconnaissant le pape, en reconnaissant les petites modifications dans la liturgie dans lesquelles on introduit par exemple le nom du pape ou des éléments comme ça qui permettent dans le fond à ces chrétiens séparés, désunis, il vaut mieux dire, de rester ainsi dans le giron de l'église catholique et d'avoir leur propre autonomie.
Donc ils sont venus, il y a eu des représentants lors des élections des papes.
Alors, maintenant, ces églises orientales ont leurs représentants, ont leurs patriarches propres, et au moment des élections, si l'un d'entre eux est cardinal, ce qui est souvent le cas de ces chefs d'église orientale catholique, ils ont un patriarche, et ces patriarches participent à part entière aux élections pontificales et pourraient devenir pape. On pourrait avoir un pape. Pour l'église universelle, maronite par exemple. Oui. Les maronites ont le privilège d'être une église orientale qui n'a jamais été séparée de Rome. Et donc il n'y a pas le pendant orthodoxe. Mais vous pourriez avoir donc un pape chaldéen, un pape syrien, un pape arménien, un pape gréco-catholique, un pape copte-catholique, parce qu'il participe à part entière à nos conclaves. C'est une très très grande ouverture qui n'existe pas du tout en réciprocité.
Eh ben merci frère Edouard, on en parlera un peu plus encore la prochaine fois.
À bientôt.
À bientôt.